Chers auditeurs, dès le début de son ministère à Bayonne, le principal souci de Mgr Loyson avait été de procurer un curé ou un desservant à chaque paroisse. Dans la logique de cette préoccupation, il se mit en devoir d'ouvrir un séminaire, comme le lui demandait d'ailleurs le concordat, de chercher à le remplir et à le faire vivre. On ne pouvait pas compter sur l'ancien séminaire de Bayonne qui n'avait pas été aliéné par la Révolution, mais qui servait toujours d'hôpital militaire. Dès le 8 février 1803, Mgr Loyson s'adressait au ministère des Cultes pour obtenir l'ancien couvent des Capucins de Bayonne afin d'y organiser son séminaire. Peine perdue. L'année suivante, Mgr Loyson renouvelait sa requête, mais cette fois pour que lui fût remis l'ancien grand séminaire de Bayonne. Le ministère de la guerre, qui n'en avait plus besoin, venait de le céder à celui de l'intérieur. Le 28 mars 1805, l'empereur le mettait à la disposition de l'évêque de Bayonne. Mais bientôt se fit sentir le besoin de petits séminaires pour préparer les jeunes gens à l'entrée au grand séminaire. Celui de la Ressort était occupé lui aussi par les services sanitaires de l'armée. Divers collèges firent office de petits séminaires à Aire et à Dax. En 1808, Mgr Loyson établit un petit séminaire collège dans les vieux bâtiments de Bétarame. Mais le 15 novembre 1811, un décret impérial décida que toutes les écoles secondaires ecclésiastiques qui ne seraient pas placées dans les villes où se trouvait un lycée ou un collège seraient fermées. Le petit séminaire collège de Bétarame était touché par cette décision. Pour contourner le décret, Mgr Loyson pensa simplement établir à Bétarame un séminaire, un grand séminaire, appelé à recevoir surtout les jeunes gens du Béarn et de la Bigorre. Ce séminaire allait fonctionner jusqu'en 1825 avec Michel Gallicoïs comme dernier supérieur. Quelques années plus tard, le séminaire de Bayonne s'avéra trop petit pour contenir l'afflux de séminaristes. Le 4 décembre 1812, Mgr Loyson écrivait aux prêtres des anciens diocèses de Bayonne, de Dax et d'Aire pour leur annoncer que le grand séminaire de Dax venait d'être mis à sa disposition pour y recevoir les élèves de théologie. Notre séminaire de Bayonne, leur écrivait-il, ne sera plus que le séminaire des ordinants. Celui de Dax, beaucoup plus grand et susceptible d'augmentation, suffira pour les deux ou trois premières années de théologie. Mgr Loyson pensait pouvoir, avec quelques réparations, utiliser le bâtiment dès la rentrée 1813. Les événements politiques et militaires de cette année-là et l'invasion des armées de Wellington l'en empêchèrent. Il fallut attendre la rentrée de 1814. On reste en admiration devant cet afflux de jeunes gens vers les séminaires si peu de temps après la fin de la Révolution et la signature du Concordat. Dans son mandement du 10 février 1810, Mgr Loyson écrivait « Le séminaire diocésain de Bayonne, les petits séminaires collèges de Dax, d'Aire, de Bétarame sont ouverts à une nombreuse jeunesse. 250 néophytes, l'espoir de l'Église, nous osons le dire de l'État, sont élevés dans ces maisons par des maîtres qui réunissent les talents aux zèles le plus désintéressés. » Le 1er novembre suivant, le secrétariat de l'évêché de Bayonne donnait des chiffres plus précis. Le nombre de clercs étudiants, petits et grands, inscrits à l'évêché de Bayonne est de 526, répartis comme suit: département des Basses-Pyrénées, 216, département des Landes, 84, département des Hautes-Pyrénées, 226. Deux ans après, en 1812, Mgr Loyson exprimait sa satisfaction de constater le rajeunissement du clergé et il ajoutait: « Nos anciens établissements, notre séminaire de Bayonne qui doit rassembler tous les théologiens du diocèse, ne suffiront plus au grand nombre d'élèves qui nous viennent de tous côtés. » Il pourra compter sur le séminaire de Dax, nous l'avons dit. L'année suivante, en 1813 donc, il évaluait le nombre des étudiants ecclésiastiques à plus de 700. Les craintes qu'il avait pu éprouver un jour sur l'extinction du ministère sacerdotal en raison du vieillissement du clergé commençaient à se dissiper. Pour encadrer ces séminaristes et assurer leur formation, Mgr Loyson s'était tourné vers son clergé. En effet, les congrégations spécialisées dans ce ministère ne pouvaient répondre à toutes les demandes qui leur parvenaient. Mais supérieurs et professeurs nommés par l'évêque diocésain devaient être agréés par le gouvernement, qui ne leur donnait le feu vert que s'ils acceptaient les conditions imposées par les articles organiques. Ceci exigeait l'enseignement des quatre articles adoptés par l'Église gallicane en 1682 sous l'impulsion de Bossuet. De plus, une loi de 1804 sur l'ouverture des séminaires avait prévu également les matières qu'il fallait enseigner. Pendant son séjour à Bayonne en 1808, Napoléon eut l'occasion de s'arrêter au séminaire situé à quelques pas de sa résidence de Marac. Apprenant qu'on y utilisait pour les cours le Compendium de Poitiers, un manuel qui contenait les quatre articles de 1682, l'empereur ne cacha pas sa satisfaction. L'évêque, qui était présent, concluait ainsi sa narration de l'événement: on marche d'un pas sûr quand on a pour guide le grand Bossuet et pour protecteur le premier prince du monde. Ouvrir un séminaire était chose importante, certes. Encore fallait-il l'entretenir et le faire vivre. Sur ce point, le concordat n'avait rien prévu. Les édifices remis à notre disposition sont dans un entier délabrement, écrivait Mgr Loyson à ses prêtres quand l'ancien grand séminaire lui fut rendu, nos ressources presque nulles pour le mettre en état d'être habité. La solution qui lui restait était de tendre la main, ce qu'il fit en s'adressant à chacun des curés et des desservants de son diocèse. Mgr Loyson suggérait même à ses prêtres les arguments qu'ils pourraient avancer pour stimuler la générosité des fidèles. Il leur conseillait de choisir dans la paroisse deux habitants qui se présenteraient dans les maisons particulières pour recevoir les dons contre reçus. Pour des raisons économiques ou simplement humanitaires, souvent d'ailleurs à la demande des pouvoirs publics, Mgr Loyson était amené à accorder en carême des dispenses de jeûne et d'abstinence. En compensation, il demandait aux fidèles de verser une obole que les paroisses appliqueraient pour moitié au secours des pauvres honteux et, à défaut dans les villes, au soulagement des prisonniers. L'autre moitié serait attribuée au séminaire de Bayonne et transmise aux supérieurs de cette maison, qui en donnerait son reçu et en rendrait compte à l'évêque. C'était en 1806. Chaque année, Monseigneur Loison renouvellera et les dispenses et son appel à une compensation financière en faveur du séminaire. En 1810, l'évêque imposa pratiquement un barème aux diverses catégories de fidèles, à l'exception des enfants de moins de 7 ans, les mendiants et toutes les personnes qui, pour vivre, étaient obligées de recourir à la charité des fidèles. L'appel de Monseigneur l'évêque fut entendu. Les Basses-Pyrénées donnèrent cette année-là 12 784 francs au lieu de 11 322 en 1808. Les Hautes-Pyrénées 4 476 francs au lieu de 4 380 et les Landes 11 160 au lieu de 9 214. Les résultats de l'action de Monseigneur Loison en faveur des vocations sacerdotales s'inscrivaient également dans d'autres chiffres. En 1804, il constatait que depuis son arrivée, aucun prêtre originaire des Landes n'avait été ordonné. Jusqu'en 1819, un peu avant la fin de son épiscopat, il en avait ordonné 51 pour les Landes, 132 pour les Hautes-Pyrénées et 149 pour les Basses-Pyrénées, en tout 322 prêtres. Nous verrons la prochaine fois ce que fut l'action pastorale de Monseigneur Loison en faveur des fidèles.